une émission de création et documentaire sonore des étudiants du Créadoc d'avant et d'aujourd'hui.
Détendez-vous tout à fait. Vous voilà sur Inouï, prêt à savourer une heure de pépites sonores et de créations documentaires en tout genre. De quoi vous faire voyager loin sans faire un pas de plus. À vos marques, chers auditeurs, nous partons aujourd'hui à la rencontre d'univers sonores fort éclectiques, ceux des étudiants du Créadoc d'hier et d'aujourd'hui. Pour démarrer cette heure ensemble, le documentaire « Tu vis avec » d'Audrey Houdard, qui donne la parole à des femmes qui ont perdu prématurément leur mère. Ensuite, Céline Laurence nous plongera dans une exploration sonore sensitive en interrogeant la manière dont notre corps ressent le monde. Enfin, c'est du côté de la désobéissance civile que nous terminerons cette émission avec le documentaire de Fabien Petitpré, Semences paysannes à main nue face à la main basse.
Documentaire.
J'ai gardé un pull avec son odeur très très longtemps, que j'ai pas lavé.
Quand je suis retournée chez moi, le premier truc que j'étais faire, c'est que je suis montée en haut dans sa chambre et j'ai pris sa chemise de nuit. Et je l'ai sentie.
Je m'émerveille de tout, même sans voyager, dans Paris, un peu partout où je vais, j'ai les yeux grands ouverts. Et... parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui lui manquait.
J'ai gardé tous ses parfums, qu'il soit vide, tout ça. Ça lui ressemble, c'est elle, quoi. C'est le fait d'être coquette, de sentir bon. De...
Tu vis avec ? Un documentaire d'Audrey Houdard.
J'ai toujours le même parfum. Eau de Lancôme.
J'avais 16 ans. Le soir même, je l'avais au téléphone. Donc j'ai discuté avec elle, elle me parlait un petit peu sur le sourcil. J'ai raccroché, quoi, bêtement, en fait. Je ne me rendais pas vraiment compte que ça allait pas vraiment très bien. Puis mon petit frère, quand elle était se laver, elle lui a dit qu'elle partait. Et en fait, elle est partie avec sa voiture. Bon, elle a un peu bu, on va dire. Et du coup, elle est morte sur le coup. Moi, je l'ai appris que le lendemain. Celle qui s'occupait du secteur où j'étais, elle m'a dit que mon père avait appelé, qu'il venait me chercher. J'ai cogité un peu dans la tête. C'est bête, mais j'ai pensé tout de suite à la mort. Puis quand elle est venue me chercher en cours, donc je suis venue, puis après un moment arrivé près de l'accueil, je fais non, c'est bon, je veux pas y aller. Je lui fais à la dame qui était pour venir m'accompagner. Je lui dis je veux pas y aller. Elle fait si, faut que tu y ailles. Je fais non, je commençais déjà à pleurer en fait, et je fais je veux pas y aller. Je sens que ça va être trop dur à encaisser. J'ai ouvert la porte et je voyais mon père et mon frère en train de pleurer. Je l'ai vu dans la chambre funéraire. J'étais là le voir pour. Enfin, je voulais le voir parce que pour moi, tant que je l'avais pas vu, c'est pas vrai. Parce qu'ils font un beau travail, quand même, elle était super jolie. Et quand on la voit comme ça, t'as dit, bon, c'est bon, on va se lever et dire que c'est une blague, quoi. Sauf qu'elle s'est fait, quoi. Et le pire, c'est qu'en moi, au début, je n'osais pas toucher. Et quand je l'ai touchée et que j'ai senti ce truc rigide et froid, je me suis mis à pleurer parce que je me dis, c'est pas elle. Pas possible, c'est pas elle. Ma mère, c'est chaud, c'est. C'est te prendre dans tes bras, c'est quelqu'un qui avait de la voix en plus, alors ça faisait, tu te dis pas que c'est elle, et puis après, du coup, t'assumes la réalité, on va dire, plus rapidement.
Les premiers jours, je retournais à l'hôpital. Parce que je savais pas quoi faire en fait. J'étais chez moi donc je travaillais pas, j'avais arrêté l'école. Être avec les gens ça m'emmerdait parce que j'avais pas envie de parler aux gens et j'avais pas envie que les gens me disent alors ça va. Du coup ouais, les premiers jours je suis retournée à l'hôpital tous les jours. Pas très longtemps parce que je me mettais à pleurer dès que j'arrivais à l'hôpital mais j'avais besoin d'aller là-bas parce que je savais pas quoi faire. J'étais vide. Je sais pas ce que j'étais. En fait, je sais pas. Je me souviens plus très précisément de... de l'état émotionnel dans lequel j'étais. Mais je crois que la colère a été présente très longtemps, en fait. Il n'y avait pas de forme de tristesse. Enfin, j'étais triste parce que j'avais perdu ma maman, mais la colère a pris le dessus pendant très longtemps.
Après, on s'est tous mis la mort sur le dos. Enfin, moi, je leur dis, je restais plus longtemps au téléphone. Je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Mon frère s'est dit, si j'aurais pas été me laver, j'aurais été resté avec elle. Mon père, si je serais pas partie au bar. On s'est tous mis la mort sur le dos, quoi. Mais on s'est tous rassurés. On s'est dit, mais non, de toute façon, t'aurais fait ça ou ça, elle serait quand même partie. C'est pas notre faute, quoi.
Parler beaucoup. Alors là, vraiment. En parler, en rire.
J'ai fait un rêve, moi, très bizarre, une fois. Ouais, ma mère, elle venait juste de mourir. Et je rêvais comme quoi elle me téléphonait. On est juste enterrés. Et qu'elle me disait, « Marine, je sais pas où je suis, il fait tout noir, j'ai peur, viens me chercher et tout. » Puis moi, je me rappelais, je venais juste d'enterrer ma mère. Donc, bah, je me disais, j'allais au cimetière. Puis après, toujours au téléphone. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était vraiment rêve. Puis tant que tu y es, prends-moi une glace. Je sais pas pourquoi la glace, mais tu paniques, tu transpires et tout. Quand tu te réveilles, t'entends une glace, tu te réveilles, tu fais... Pff, t'es en sueur, parce que t'as l'impression d'avoir laissé ta mère dans... Enfin, sous terre, alors qu'elle était vivante, quoi. Enfin, c'était un truc de fou, quoi.
Je sais qu'à toutes les dates d'anniversaire, c'est hyper dur et c'est un jour où je suis très mal. À Noël, c'est un petit peu délicat, mon anniversaire. Mais on s'appelle pas, on se voit pas et on reste chacun de notre côté. Et je suis face à deux murs, au final, qui ne prononcent même plus son prénom et qui... On sait pas trop ce que chacun ressent.
Alors, je sais pas si elle est là. Hop là. Je lui ressemble tellement que même une fois, mon père, il me l'avait dit au tout début, que c'était dur de me voir des fois, puisque je vivais trop penser à elle. Donc aussi, je pense aussi, c'est pour ça que mon frère aussi, il avait un petit côté conflictuel avec moi aussi. C'est que je lui ressemble vraiment beaucoup, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et ce qui m'énerve avec mon oncle, c'est dès qu'il me voit, il se met à pleurer, il dirait qu'il parle de ma mère, même pas si t'intéresses un minimum à toi. Ok, ma mère est morte, mais bon, elle est morte, c'est bon, faut parler d'autres choses aussi. Moi aussi, j'avance dans ma vie, je fais des trucs aussi intéressants, quoi. Il n'y a pas que la mort de ma mère qui est intéressante dans ma vie.
On a échangé nos rôles au moment où c'est arrivé. C'est moi qui suis devenue la maman dans la maison et j'avais mon père à gérer avec qui je m'entendais pas du tout et du coup c'était assez compliqué. Mon petit frère qui était un enfant et ma maman qui était un deuxième enfant. Et donc je pense que j'ai fait n'importe quoi. Inconsciemment ou consciemment, enfin bref, voilà, je me suis retrouvée enceinte au moment où elle est décédée. J'ai fait un test de grossesse le lendemain de l'enterrement. Et à ce moment-là, je me suis posé la question. Et en fait, pour moi, quand il y a un décès, il y a une vie qui arrive derrière. Et là, en l'occurrence, il n'y avait rien dans mon entourage, rien dans ma famille, il n'y avait rien qui... Et en fait, c'était plus ça. Est-ce que finalement, c'est pas la continuité est-ce que ça arrive par hasard? Est-ce que ça arrive pas par hasard? Est-ce que je dois le garder? Est-ce que je dois pas le garder? À l'heure actuelle, par contre, ma position est vraiment claire. Je ne veux pas avoir d'enfant. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que pendant très longtemps, il était clair qu'il était hors de question que j'ai une fille. Je voulais pas de fille. J'aurais pas su comment faire, en fait, je crois. Tu vois autour de toi toutes les copines ou toutes les filles, elles ont leur maman qui viennent les aider ou qui les... Elles ont quelqu'un sur qui s'appuyer. Toi, t'as rien. T'es seule face à toi-même. C'est la même chose pour tout ce que tu construis au final. Mais ma démarche, elle est un peu plus profonde. C'est que si je peux égayer la vie d'un enfant qui a perdu ses parents, J'ai pas ce besoin de moi créer un être et... On va s'arrêter là. Ça suffit. C'est bon.
Voilà, et donc là, c'est la... c'était la chambre de mes parents. Chambre toujours très froide.
C'est la photo qu'on a d'elle, et c'est le souvenir qu'on aime bien avoir d'elle sur cette jolie photo. Ce que j'aime, c'est son grand nez. Maman, elle avait un grand nez. D'abord, elle avait beaucoup d'humour, donc elle se moquait d'elle-même. Donc, c'était toujours assez sympathique. Donc, on voit bien son nez. Et puis, sa coiffure et son front bombé, qui est très familial. Et alors, maman, elle était blonde, aux cheveux longs. Alors, c'était bizarre, hein, ses coiffures à cette période-là. Parce qu'elle fait, je trouve, beaucoup plus âgée que... Enfin, je trouve qu'elle faisait dame. Et moi, quand je vois comment j'étais même à 42 ans, j'ai l'impression que je ferais jamais aussi dame qu'elle. Et alors là, moi, quand je vois ça, j'essaye toujours de repenser à une odeur aussi. Pouf. Il y avait un petit truc que je voulais peut-être ajouter, qui est une expérience que j'ai vécue récemment, mais qui me semble importante dans l'idée de transmission. Donc, je suis aussi grand-mère, ma petite fille a 2 ans, et au moment de sa naissance, il s'est passé quelque chose d'assez... C'était un moment que j'attendais, de façon sans doute un petit peu... Un peu trop grande, un peu trop décalée. Parce qu'en fait, je me suis aperçue, mais je l'ai relue après, que je me souviens, maman qui disait toujours « Oh là là, je me réjouis à l'idée d'être grand-mère dans quelques années. » Et c'était... Bon, moi, j'ai eu une vie avec ma grand-mère très, très forte, très, très fusionnelle. Et j'ai eu un manque énorme de maman en tant que grand-mère de mes enfants. Voilà. Encore une position, une situation où l'absence a été importante. Du coup, j'ai complètement fantasmé, moi, sur la façon d'être grand-mère, en rajoutant peut-être un petit peu trop, quitte à créer même des petits... Voilà, des choses pas très agréables, peut-être avec mes enfants. Et comme quoi, ça n'en finit pas. Et alors, j'ai pas envie que ça finisse, parce que je pense que ça va durer encore longtemps. Mais c'est vrai que redécouvrir à tous les stades de sa vie comment on a été marqué, je le vois bien même en discutant avec mes filles, j'improvise parce que je ne peux pas me référer à mon expérience d'accompagnement de ma mère dans ma vie de femme adulte. Donc ces situations qui n'en finissent pas, ben, qui vont avec l'âge et qui sont normales, qu'on découvre, qui me permettent aussi de découvrir comment, ben, là encore elle est absente, là encore.
Merci à Céline, Marine et Véronique. Créadoc, Angoulême, 21 novembre 2014.
Inouï. Inouï.
Après Tu vis avec d'Audrey Oudard, poursuivons notre écoute avec Tabula Rasa de Céline Laurence.
Création sonore.
Voilà, ça c'est une vibration. Si je vous le passe sur la main, sur le dessus de la main, ça va être plus... Vous allez vous ressentir. Voilà. Vous ressentez quelque chose, hein?
C'est possible que je sente à l'intérieur comme des picotements, mais localisés.
Localisés.
Enfin, ça fait aussi, ça peut faire aussi ça un peu comme ça, la sensation.
D'accord. Vous voyez que les sensations peuvent être complètement différentes. Moi, je le fais quand je fais ça aux gens, et ils disent « Oh tiens, ça chauffe. » Ou « Tiens, c'est froid. » Chaque personne, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, chaque personne a un senti particulier.
L'air dans les narines.
Voilà, si je vous fais au bout du doigt, peut-être, ça va. Ça,
ça sent ça.
C'est encore différent.
Picotement dans les mains. Je sens la peau, des micro-variations.
Ça sent ça.
Sur la peau, de la lumière dans les yeux, au travers de la peau. Et je sens les os.
Ça sent ça.
Sens ça. Tabula Rasa. Une création sonore de Céline Laurens.
Au départ, il y a le laryngopharynx, ça c'est tout ce qui est au-dessus du cartilage thyroïdien.
Je sens le contact des os contre les os. Le talon gauche, ça démange dans la cuisse. Pression de la peau et des tissus sur l'intérieur de la cuisse gauche.
Ça.
L'os hyoïde.
L'air soufflé de ma narine sur ma main.
L'estomac. Il est donc là. Donc après, il y a les intestins grêles. Arrivé là, ça part un peu plus en diagonale pour rejoindre le poumon sigmoïde, le petit poumon.
Vous êtes assis. Vous sentez vos ischions sous vos fesses. Touchez la surface du siège. Vous sentez vos dorsales sur le dossier. Vos mains. Où sont posées vos mains?
Tu es à 33 000. Je mesure aussi ici, par exemple. Là, on est 25 000, ce n'est rien d'extraordinaire. Par contre, je vais. Donc, à ce point, normalement. Tu te montres bien qu'il y a quelque chose de particulier. On est au-dessus des 90 000, il faut aller chercher mon autre tableau, on a un lieu particulier. Donc tu vas rester là, pendant que je vais chercher le truc, et on va voir comment toi, essaie de te mettre en situation, de te sentir les énergies du lieu. D'accord? Ce lieu-là est très puissant. Donc tu reçois, essaie de sentir si tu sens quelque chose à travers la table en question, La table d'élévation, on appelle ça.
Quel type de sensation ?
Essaye de voir si tu sens une sorte de connexion dans l'axe vertical en haut et en bas, quoi. Tu sens un petit peu?
Peut-être, oui, sur le dessus des mains.
Je te propose de mesurer maintenant
oui.
Ton niveau d'énergie. Je suis sûr qu'il a encore monté. C'est à 30 000 tout à l'heure. Hein. T'es passé à près de 100 000. Mais si, c'est sûr et certain. Donc,
voilà. Je suis passé à 100 000.
Genre, ne le dis pas trop fort, parce qu'il y a des gens qui... Tu te le dis, tu vas passer pour une éliminée. Mais c'est une réalité scientifique.
Qui est magique dans le fait de pas comprendre.
Bah parce qu'il y a quelque chose à découvrir. Je crois qu'on est curieux quand même.
C'est difficile à exprimer parce que avec les mots, on ne peut pas tout dire.
C'est-à-dire que la langue n'est pas forcément ce qui nous relie d'abord. Même si je trouve ça magique, mais...
Sensation. Phénomène psychophysiologique par lequel une stimulation externe ou interne a un effet modificateur spécifique sur l'être vivant. Sensation externe.
Ce qui me vient du monde extérieur.
Visuel.
À travers les yeux. Les oreilles.
Forme, couleur. Auditive. Son, bruit. Gustative.
Mes narines.
Saveur. Olfactive.
Ma peau. Sensationnel. Et aussi du dessous de ma peau. Chair. Muscles. Os.
Sans ça.
quelque chose, toi, Féline?
Bah, à un moment donné, j'ai senti comme du tiède derrière les pieds, tu vois, mais un peu à distance.
Ouais.
Un mouvement de chaleur à distance.
Sous tes pieds?
Ça faisait comme une vague.
Mmh.
Qui enveloppe.
Au niveau de la tête, j'ai senti une grande expansion. Mes mains, elles sont montées très très haut, du coup.
Et cette expansion, tu la perçois comment? Enfin, c'est quelque chose qui te donne envie de monter tes mains?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Comme un mouvement?
C'est comme si ça poussait mes mains. Comme s'il y avait quelque chose qui soulève mes mains. Là, ça me picote.
Ben. Peut-être quelque part si, parce que c'est quand même cette réceptivité à l'autre. Voilà. Par où elle passe? Ce travail de ce qu'on appelle l'extrême lenteur, un millimètre par seconde, pour reprendre la formule, m'a donné l'impression, enfin, j'avais l'impression. En fait, c'est le fait d'être dans la lenteur, c'est ce qui permet juste de saisir à chaque fois ce qui est présent. Pour moi, c'est ce qui rend compte presque le mieux de ce devenir, là. Tac, 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 tac. Parce que on est dans la lenteur, mais ça fait ta 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 ta. On pourrait faire ça aussi dedans, dans le mouvement, tac, 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 comme ça. C'est curieux, c'est ce qui rend, pour moi, pour l'instant en tout cas, presque le mieux compte du présent en train de se dérouler, c'est ça. Alors, des fois, j'aime plus parler de ça, j'ai envie de simplement me dire, mais fais-le. Essaye.
T'es devant ton corps énergétique, d'accord? Important déjà d'être centré.
Okay. Ça peut faire quoi sinon?
L'expression populaire qui dit marcher à côté de ses pompes. Par contre, il faudrait que je puisse mettre ce que j'ai pas amené ça, moi, j'étais pas engagé dans cet esprit. Harmoniser ta chambre avec ça marche, une coquille Saint-Jacques, c'est une onde de forme, et une pierre de croix. Les pierres de croix, c'est ça, tu vois, c'est des pierres qui sortent comme ça de la terre. Il y a une croix dessus.
C'est beau.
Oui, c'est beau. Et c'est des pierres qui mettent à la terre, qui rééquilibrent tout ce qui est le tellurique. Que j'ai, quand j'ai.
Et au cœur, il y a un chakra aussi.
Bien sûr.
Et moi, ça va, il n'est pas bloqué. Mon chakra du cœur. Je dis toujours que j'ai le chakra du cœur bloqué.
Non, il n'est pas bloqué. Donc, alors, il n'est pas à un top niveau, mais il n'est pas bloqué. Alors, si tu le dis un peu, ça peut le bloquer. Arrête de dire des choses comme ça. Mais oui, parce que tu sais, on se dit. Voilà. Je dis tout à l'heure.
Descends.
Là,
descends-moi. Là. Plus bas. C'est un muscle, le cœur. Trois couches de muscles, tout en spirale. Donc c'est un muscle creux. C'est creux, le cœur. C'est un organe, voilà, c'est un organe creux. L'estomac, c'est un organe creux. Le foie, c'est un organe plein. Les poumons, plein d'alvéoles.
Le cœur des poulets, les machins, tout ça.
Pourquoi on a qu'à décider des poulets toute sa vie?
Mais en fait, ce qui est bizarre avec le cœur, c'est que c'est un muscle et un organe. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Alors que les poumons, ben voilà, c'est vraiment...
C'est pas pareil.
Enfin, ça... C'est ça qui est bizarre avec le cœur.
C'est des fibres musculaires, quoi.
Voilà.
Tout en spirale.
Empirisme. Doctrine selon laquelle nos connaissances du monde extérieur proviennent de l'expérience sensible.
Tabula rasa. Une tablette vide.
Quand on est allongé sur le ventre, c'est une position qui favorise vraiment le système nerveux parasympathique.
Aristote. Et la formulation de la tabula rasa.
Quelle sensation vous êtes aussi quand vous venez de quitter, allongé sur le ventre pour marcher ou allongé sur le ventre pour faire autre chose, ce qui nous ramène vers l'intérieur.
Désigne une tablette vide, attendant que les sens viennent y écrire la réalité du monde extérieur.
Attendant que les sens viennent y écrire la réalité du monde extérieur.
Essayez de goûter aussi chaque petite chose qui nous arrive. De ce qui est présent tout de suite.
Les qualités sensibles permettraient par leur opposition, mais aussi par leur comparaison, d'aboutir à l'ensemble des concepts par lesquels nous pensons le monde.
On va aller voir le cœur.
Du cœur.
Oui.
Eh ben,
t'as détendu.
Quand je baissais les bras, j'avais plein de frémissements dans le bras et j'avais l'impression que ça lâchait.
Écoutez votre cœur. Accueillir son rythme. Localisez-le. Visualisez l'espace de votre cœur.
Des approches qui sont oubliées. Des savoirs qui nous manquent. Ou qui s'éteignent un petit peu. Moi, je me dis souvent, c'est ce genre de... C'est pas des ateliers comme ça, mais il y a des tas d'autres façons. Hein. Mais on se sent vivant.
Et là, comme tu dis, je me suis sentie vivante. Et ça a duré que quelques secondes, quoi.
Attends, c'est un état de grâce, ça aussi. C'est banal à dire, mais le vivre l'est moins, quand même. Je trouve ça... ça...
Tabula Rasa, une création sonore de Céline Laurens, dans l'ordre d'apparition. Merci à Serge, énergéticien. Merci à l'association Tendance de Champenier et à Nathalie lors de son stage en Body Mind Centering. Merci à Marie, praticienne du mouvement. Merci à Alain, géobiologue ainsi qu'à l'église Saint-André. Merci à Isabelle pour cette discussion autour de la danse buto. Merci à l'ensemble de l'équipe pédagogique du CréaDoc, ainsi qu'à ses intervenants. CréaDoc, Angoulême, mai 2013.
Ne quittez pas, vous écoutez Inouï. Une émission des étudiants du CréaDoc.
Après Tabula Rasa, exploration sonore de Céline Laurens, c'est avec Semences paysannes à main nue face à la main basse que nous terminerons cette émission. Un documentaire de Fabien Petitpré. Documentaire.
Semences paysannes, à main nue face à la main basse, de Fabien Petitpré.
En 89, il y a eu une interdiction par le gouvernement, avec les semenciers, qui ont décrété que les paysans n'avaient plus le droit de faire leurs semences sans demander une autorisation. Et si on ressemait, on était passible de poursuites pour contrefaçon. Et là, on a décidé qu'on allait transgresser cette interdiction, que les trieurs allaient rentrer dans les fermes et que demain, on protégera les trieurs. C'est inacceptable que tout d'un coup, on s'approprie ce qui a été, depuis la nuit des temps, notre travail de semer des graines, de les récolter et de les ressemer, quoi. Yves Mangui, je suis retraité de l'agriculture. Je suis marié avec 4 enfants, les petits-enfants, enfin bon, comme une famille normale, quoi. En 70, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale sur le droit de propriété intellectuelle. Et là, à la dernière minute du débat, il y a quelqu'un qui a proposé un amendement pour introduire les semences agricoles dans le droit de propriété intellectuelle. Et donc, ils se sont appuyés là-dessus pour faire l'arrêté de 89. Une fois qu'on a passé outre cette interdiction, les trieurs, au bout de 3 semaines, ils ont eu des PV assez élevés par la police des semences du GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences. Et là, on a occupé le GNIS de Poitiers. L'année d'après, on a occupé le GNIS à Paris. Alors, le siège national et en même temps, le siège dans le Nord. Et après, on a occupé Rennes aussi. Alors là, on avait fait un truc pas mal. En s'en allant, on amène le matériel qui sert à nous poursuivre. Les ordinateurs, les cassettes et tout ça. On a mis la liste de tout ce qu'on avait emmené. On n'a pas dit où on allait avec. Puis après, on allait les reporter dans les gendarmeries. Voilà, on s'amusait aussi, quoi.
Depuis toujours, les paysans ont pris dans leur grenier pour ensemencer leurs champs.
Quand on récolte du blé, il y a du bon grain,
Il y a des grains cassés. Et puis quand on parle de triage de semences, c'est tout simplement le fait de prendre dans sa récolte pour pouvoir ressemer. Bon, quand on n'avait que 5 ou 6 hectares à semer, ça ne posait pas de problème. Mais à partir du moment où déjà les exploitations grandissaient, c'était plus possible de faire ce travail-là à la main. Et donc, il a fallu passer à des moyens de triage plus importants. Et c'est là qu'il y a eu des entrepreneurs qui se sont mis à passer dans les fermes. On appelait ça le triage à façon. On a fait aussi des opérations publiques de triage à façon. C'était un peu une provocation, mais une provocation justement pour faire prendre conscience. On faisait donc du triage qui amenait du public, parce que beaucoup de gens n'avaient pas vu comment on triait du blé avec les machines qu'il y a aujourd'hui. Et en même temps, on distribuait des tracts, ce qui permettait à la population de comprendre un peu ce qui se passait. Et aussi, bien entendu, on faisait venir les journalistes. Et pour nous, que ça passe dans les journaux, ça permettait de diffuser la question de fond que nous posions, quoi. Alors, entre-temps, on a quand même été, puisqu'on avait séquestré, soi-disant, le directeur de Poitiers, on a été inculpé pour séquestration, etc. Et il y a eu un procès à Poitiers, où on était 9 inculpés, et puis là, on a été relaxés. Alors, de fait, nous en avons tiré la conclusion que nous étions relaxés, donc que finalement, nous avions raison de continuer à faire nos semences. Il y a eu quand même, depuis ce moment-là, de la part des semenciers, différentes attaques. On a eu un projet de loi en 1995, on a réussi à bloquer le projet de loi, il y en a eu une autre en 1997, on l'a aussi bloqué. Il y a eu donc 3-4 projets de loi qui sont passés, toujours les mêmes, qui ont été remis. Il y en a eu un en 2000, en 2006, et puis un en 2011, je crois. Et là, en 2011, ben, le projet est passé, qui fait que cette... cotisation volontaire obligatoire qui était que sur le blé au départ, est étendue maintenant à 25 ou 30 espèces, quoi. Normalement, on ne voyait pas comment on allait pouvoir passer au travers, et c'est la résistance qui a fait qu'on a pu continuer à faire nos semences, et même encore aujourd'hui, avec quelques restrictions, mais on a réussi à tenir le coup jusque-là, quoi. S'il n'y a pas un minimum de justice, il n'y a plus de vie possible, quoi. Hein. Bon, mais la vie, elle est possible aussi que s'il y a une aspiration à la justice de suffisamment de gens, et qu'il n'y en ait pas qui, tranquillement, dominent tout le monde, vivent sur leur dos, comme c'est le cas quand même aujourd'hui, quand on sait que 1% de la population détient la richesse de l'ensemble. Ce qu'on appelle la justice, elle n'est pas forcément juste, alors... C'est là où il y a un problème de conscience, quand il y a besoin de réflexion, de connaissance aussi des conséquences des rapports économiques, de domination qui existent. Et les rapports de domination, ils ont toujours des réactions. Alors, il peut y avoir des réactions de la violence à la violence. Et puis, il y a la réaction de non-violence, qui demande quand même réflexion, modération, je dirais aussi une certaine volonté. On sait bien qu'on prend des risques, quoi. Mais on sait aussi que si on ne les prend pas là, on va en supporter d'autres qui vont être peut-être plus durs, quoi. Bon, c'est entre deux mots, il faut choisir le moindre, quoi.
Carrefour là. Bon, je m'appelle André Pugrenier, je suis paysan à la retraite. Il se trouve que je vis à côté de la ferme sur laquelle je travaillais. Quand on a démarré l'exploitation, il y avait des vaches laitières qu'on n'a pas gardées très longtemps d'ailleurs. Et après, on a eu un élevage avec un engraissement de porc. Et alors, on s'est interrogé sur l'agriculture productiviste dans laquelle on était engagé. Et on a terminé en agriculture biologique. On a fait surtout des légumes secs, lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots. avec des cultures de blé et de tournesol essentiellement. Et également de la luzerne, parce qu'elle était intéressante au niveau de la rotation des cultures. À une époque, ceux qui osaient faire ça, bon, étaient regardés comme vraiment des retardataires ou des gens farfelus. Et finalement, l'histoire nous montre que c'était une démarche vraiment, on pourrait l'appeler d'avant-garde, puisque aujourd'hui, c'est la forme d'agriculture qui quand même répond le mieux aux enjeux d'évolution de la société en général et de l'équilibre, que ce soit climatique, que ce soit la biodiversité et pas mal d'aspects. Le maïs est une plante vraiment emblématique de ce que l'industrie semencière a pu faire pour s'accaparer la semence, avoir une récolte avec des grains qu'on ne peut pas ressemer parce qu'ils ne sont pas productifs et qu'on est obligé à l'acheter. C'est vraiment une réussite industrielle extraordinaire et qui prive le paysan et qui le rend complètement dépendant, alors que les pratiques qu'on voit aujourd'hui de gens qui chez eux vont choisir les épis maïs sélectionnés, ça produit de très bons résultats quoi. Il se trouve que le plant génique est essentiellement cultivé pour pouvoir supporter du désherbage ou bien pour produire une toxine qui va détruire des insectes. On a tout de suite un impact prévisible sur la santé du monde animal et des humains également. On a essayé d'alerter la profession, les pouvoirs publics sur les conséquences de ces cultures-là et pas d'écoute. On n'a pas trouvé d'autre solution que d'attirer l'attention par un fauchage sur une surface réduite quand même, quitte à prendre des risques d'être poursuivi, ben, ce qui s'est produit. Bon, c'est malheureusement une action de destruction, par contre, qui ne doit pas s'accompagner d'attitudes violentes vis-à-vis des personnes et exclut l'utilisation de tout outil qui pourrait porter à conséquence, couteau, faucille, donc tout fait avec les mains ou les bras. Dans l'action où j'ai participé et donc été poursuivi, on était plus de 110. La police est arrivée sur la fin. Ils ont pris nos identités. Il y a 32 personnes qui ont été interrogées. Et au final, on a été 3 inculpés. Sachant qu'entre-temps, ceux qui avaient participé s'étaient signalés au procureur pour être également inculpés, ce qui n'a pas été retenu. Une stratégie de la justice, c'est de n'impliquer que 3 personnes alors qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est pour l'exemple, sûrement. Bon, je suppose bien qu'il y en a qui disent « il est condamné, ma foi, il a bien cherché ». Mais moi, je le vis pas mal par rapport au voisinage, sur la commune et de manière plus globale. Même si les gens n'ont pas envie d'aller jusque-là, eh bien, ma foi, si d'autres le font et que ça a un résultat, ils sont prêts à approuver largement. C'est important de poser un acte qu'on sent qu'il est compris. Vis-à-vis de la justice, ça nous a amené à chercher des témoins du raisonnement qui nous a amené à faire ça, c'est-à-dire à des scientifiques, des gens qui connaissent les choses. Et finalement, ça nous confortait dans notre action et sur le bien fondé d'avoir mené cette action-là. Et c'est plutôt intéressant, quoi. Il y a tout un raisonnement à avoir par rapport à la notion de loi et de règlement, puisque quand même, on a été éduqués, moi en particulier, c'était extrêmement important de respecter la loi. Alors que, bon, les lois aussi sont faites par ceux qui, à un moment donné, dominent la situation, quoi. Quand on connaît au niveau économique les lobbies qui sont présents dans les instances de Bruxelles ou même dans les couloirs du Palais Bourbon, c'est bien pour la défense d'intérêts, je dirais, particuliers qui sont là plutôt qu'à l'intérêt général. Donc la loi, eh bien, il faut des fois, ça mérite qu'on lui désobéisse.
La loi sur le Grenelle a abouti justement à instituer un moratoire, je crois que c'est en 2008. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, ça donne qu'en France, depuis cette date, on n'a pas cultivé d'OGM et cette situation est maintenue. Il faut faire un bémol, c'est qu'on a beaucoup de variétés OGM qui sont autorisées à l'importation. Donc, qui rentre quelque part dans l'alimentation animale et certainement plus loin dans les produits animaux qu'on est amené à consommer. Les faucheurs ont mené des actions dans les ports pour sensibiliser sur le fait de l'arrivée de ces soja en particulier. Et malgré d'avoir rendu des quantités relativement importantes de tourteaux non utilisables, en fait, il n'y a pas eu de poursuite de ceux qui ont fait les actes et ça a été difficile de populariser l'action. Parce que le fauchage a l'ennui d'avoir le tribunal derrière, mais ça donne une possibilité de faire connaître à la population ce qui se passe. Et on a l'impression qu'on retarde au maximum la poursuite des gens qui ont mené des actions de désobéissance civile pour que, pendant ce temps, les choses s'installent et après on pourra difficilement faire marche arrière. Voilà le ressenti qu'on a aujourd'hui.
Comme ils se sont rendus compte que la transgénèse n'était pas acceptée par la population, avec la mutagénèse, ils ont fait en sorte que des techniques aussi impactantes sur le vivant ne soient pas évaluées ni contrôlées par des règlements. Et on a une impuissance de nos gouvernants à maîtriser ça, et comment on sortira de ça? Peut-être pas les mêmes formes de lutte que celles qu'on a été habituées, mais il y a pas mal de gens qui s'engagent. Ben, on ne va pas attendre que les choses changent, on va essayer de faire nous-mêmes des choses, quoi. Quand on peut, on pose des actes, et je trouve que c'est bien.
C'était Semences paysannes, à main nue face à la main basse, de Fabien Petitpré. Merci à Yves Mangui et à André Puygrenier. Créadoc, Angoulême, décembre 2015.
Cette heure ensemble sur Inouï, chers auditeurs, s'achève déjà. Souhaitons que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie. Un grand merci à tous ceux qui ont réalisé cette émission. Et à très vite pour de nouvelles explorations sonores des étudiants du Créadoc d'hier et d'aujourd'hui. Ça fait un peu machiavélique.
Mais non, c'est bien.
Inouï.